Longue pourrait être la liste des noms de mes souvenirs, des noms qui, pour les jeunes cracoviens, n'ont certes plus guère d'importance. Cette liste a pourtant sa signification historique. Elle rappelle ceux qui ont été des concitoyens de notre ville, qui ont contribué à sa culture matérielle et spirituelle, aux sciences et aux arts, ceux qui, tout en étant de bons juifs, ont aussi été de bons patriotes polonais qui ont participé activement au développement de Cracovie et de la patrie commune. Si en accomplissant notre devoir à l'égard de ceux qui sont morts pour la patrie, nous immortalisons leurs noms sur des plaques commémoratives, il est juste que je cite dans mes souvenirs les noms de ceux qui ont été emprisonnés et assassinés. Cette citation, qui provient du livre « La pharmacie du ghetto de Cracovie », est un témoignage unique de Tadeusz Pankiewicz, qui est un pharmacien polonais ayant tenu la seule pharmacie du ghetto de Cracovie, nommée « Allègle », et se trouvant au 18 place Zgodi, la scène principale des grands massacres nazis. Le 3 mars 1941, la formation d'un quartier juif à Cracovie est annoncée, dans le quartier de Podgorze. C'est le début du ghetto de Cracovie, qui durera jusqu'en 1943, avec son entière liquidation. Il ne devrait rester habité que des juifs dans ce quartier. Mais ce pharmacien fait partie de la minorité non-juive, et il s'est dévoué volontairement pour garder son poste et loger dans la petite chambre de garde de la pharmacie, malgré la fermeture progressive du ghetto. Il travaille avec trois femmes auxquelles le livre est dédié, Irena Drodzikowska, Aurelia Danek-Czortowa et Elena Krewaniuk, qui nomme les trois pharmaciennes de la pharmacie du ghetto. Il écrit son témoignage pendant la guerre en tenant comme un journal de bord, un carnet où il raconte tout ce qu'il se passe lors d'une journée au ghetto, et publie la première édition en 1947. Mais étant censuré, est jugée comme incomplète par des proches et ne racontant pas toute son histoire au sein de la pharmacie, il publie une deuxième édition, 35 ans après, en 1982, en ajoutant également des poèmes, des illustrations et des images. Ce récit est un témoignage direct de l'horreur qu'étaient les ghettos, et ici, celui de Cracovie. Mais ce témoignage est assez spécial, car il n'a pas été victime de ces horreurs, mais un spectateur, car il n'était pas juif comme tous les autres. Mais ne faisait pas partie des brigades allemandes ou de la Gestapo. Il se situait entre les deux, liant des amitiés avec l'un comme avec l'autre. Dans la préface, il présente son témoignage et ses objectifs, comme la volonté de fixer le temps dans le ghetto de Cracovie, car il s'était forcé de décrire le plus fidèlement possible ce qu'il avait vécu de la période d'ouverture du ghetto, du 3 mars 1941 jusqu'à sa liquidation, le 13 mars 1943, mais aussi durant la période qui suit. Sa pharmacie devient rapidement plus qu'une pharmacie ordinaire. Elle est un asile, un lieu de paix et d'accueil pour les habitants du ghetto qui s'évadaient pendant un moment de leur environnement détruit, qui voulaient échapper à l'horreur ou même parfois y rester la nuit par peur de se faire arrêter par des Allemands. Il est le seul endroit du ghetto où il était possible de se procurer de l'alcool et du réconfort pour les Juifs. On y discute de tout, de sujets politiques, philosophiques ou encore artistiques. On y écoute de la musique et on y chante. La pharmacie de Pankiewicz était ainsi le seul moment où les habitants du ghetto pouvaient s'éloigner pendant quelques instants des ennuis du quotidien.
Son témoignage se divise en 6 chapitres, avec une chronologie bien précise. Les chapitres 1 et 2 présentent la nouvelle vie du protagoniste, de la pharmacie et du quartier. C'est l'installation et la fermeture du quartier du ghetto, avec la mise en place d'une routine. Il présente dans son témoignage chaque personne qui poussait la porte de sa pharmacie, en n'oubliant jamais d'associer un nom avec ses dires, comme une volonté de mémoire. Qui ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils sont devenus après la guerre. On peut citer plusieurs histoires particulières, comme le docteur Rapaport, un intellectuel juif. Il vient un jour à la pharmacie pour demander au gérant d'envoyer un recommandé, car il disait avoir résolu un problème mathématique réputé irréalisable depuis Pythagore. Le pharmacien envoya le travail à son ami, professeur, et il s'avère que son raisonnement était le bon, et le plus exact qu'on eût. Il fut publié dans une revue spécialisée après la guerre, mais son auteur ne fut jamais mentionné, car il fut mort pendant l'expulsion de juin. Il y a aussi des personnages plus mystérieux à l'intérieur du ghetto, comme Forster. C'était un juif allemand, qui jouissait pourtant de privilèges, comme ne pas porter le brassard avec l'étoile juive, rentrer et sortir même après l'heure du couvre-feu. Il travaillait même à la Gestapo, avec l'uniforme allemand. Un jour, tout le monde se demanda pourquoi, il a été emprisonné. Mais le lendemain, des gestapistes, dont Heinrich, qui était le maître des SS et un haut fonctionnaire nazi, viennent ouvrir sa cellule et sortent avec lui, d'excellente humeur, en rigolant ensemble comme si c'était une blague. et comme pour rappeler la différence entre les autres et lui, qui était juif. Les occupants de la pharmacie font tout leur possible pour aider les juifs, à améliorer leur quotidien au sein du ghetto, leur éviter l'expulsion, ou voire même s'enfuir. Par exemple, ils ont teint les cheveux blancs des plus âgés du ghetto pour les faire passer au contrôle nazi. Ils ont fait des fausses ordonnances pour sortir, prétextant une absence de médicaments, ou encore se sont aidés de certains Allemands complices pour tenter de sauver les juifs. Ils présentent également les différentes institutions mises en place. Le Judenrat, qui est la représentation officielle des juifs, la Gestapo ou l'OD, la police juive.
Les chapitres 3, 4 et 5 sont les plus marquants, car ils montrent le rétrécissement, les expulsions et jusqu'à la liquidation complète du ghetto. En 1942, les actions allemandes commencent. Les premiers coups de feu sont tirés et Thaddeus dénonce la propagande mise en œuvre par les Allemands. En novembre 1942, une lettre parvient jusqu'au ghetto, lui confirmant les doutes sur le sort des déportés. Une fois le train entré dans la forêt, les gardes ouvraient les portes des wagons et ceux qui étaient toujours en vie devaient se déshabiller complètement. Ensuite, ils étaient chassés vers les chambres à gaz, et puis leur corps était brûlé. C'est de là que venaient ces fumées incessantes au-dessus de la forêt. La lettre se terminait par un appel, que plus personne ne s'illusionne sur le sort des déportés. Celui qui le pouvait, qu'il n'atermoie pas un jour de plus, qu'il s'enfuit au plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. En décembre 1942, le ghetto est séparé en deux. Entre le ghetto A, les travailleurs, et le ghetto B, les non-travailleurs. Il décrit la misère des habitants du ghetto B. Les Allemands les enfermèrent chez eux sans aucune issue de sortie. Les horreurs défilent devant ses yeux lors des expulsions, suite à la réduction de plus en plus importante du ghetto. Il met en avant et dénonce les violences des Allemands. Leur sadisme, car un tampon sur un papier déterminait de la vie ou de la mort, et tout cela seulement selon leur humeur. Lors des épisodes de violence, ils aimaient entendre les gémissements de leurs victimes et n'entendre que le silence face à leurs coups, les plonger dans une rage terrible. Il peut décrire les violences très précisément, car sa pharmacie donne sur la place des expulsions. On entend les premiers coups de feu, les premières victimes de l'expulsion d'octobre tombées dans les cours, les vestibules, sur les trottoirs. Ils sont blessés, le sang gicle, ils sont tués. Les bourreaux nazis contemplent l'horrible agonie des assassinés. Un fond de silence règne des deux côtés. La foule, sur la place, grandit de minute en minute. On ordonne à ces gens, debout, de s'asseoir. Il est interdit de se lever, même pour aller satisfaire ses besoins. Les gens sont entassés de façon invraisemblable, sans eau. Cette fois, il n'y a pas de médecin sur la place. Personne ne peut apporter de l'aide et il fait terriblement chaud. Ces scènes dantesques resteront pour toujours gravées dans ma mémoire de ceux qui, comme moi, les ont vues, les ont vécues. Il mentionne le camp de Poichov, qui fut progressivement construit puis servi de lieu de déportation des juifs du ghetto. Il évoque Oskar Schindler, qui permit l'évasion de certains juifs de ce camp, mais aussi des figures qui terrorisaient les habitants, telles que Amon Gott. La liquidation complète du ghetto débute le 13 mars 1943. C'est le passage de ce livre le plus sanglant et le plus cauchemardesque. Il est même dur à lire. Il présente avec détail les violences commises. Par exemple, l'alignement des enfants pour les tuer d'un seul coup, par économie de balles. L'organisation de courses à la mort dans lesquelles les vieillards étaient contraints d'y participer, et où de rares cas, le gagnant était épargné. La plupart mouraient d'une balle dans la nuque, avant d'être arrivés jusqu'à la fin.
Le chapitre 6 est le plus particulier du livre, car il explique la vie après l'expulsion. Les cadavres sont entièrement déshabillés et embarqués. Par exemple, un officier juif a dû déshabiller le cadavre de sa propre mère. Et le nettoyage du ghetto a lieu. Les Allemands saisissent le mobilier et les biens restants dans les maisons inhabitées. Je cite. Le ghetto se mourait et on pouvait croire que c'était là le dernier acte de sa tragédie. Et pourtant, les Allemands réussirent à inventer quelque chose d'encore plus horrible que les méthodes qu'ils avaient appliquées sur les vivants. Cette fois, ils profanèrent la gravité de la mort. Quand le ghetto eut été abandonné par les dernières divisions allemandes, l'OD et les juifs retenus reçurent l'ordre de déshabiller complètement les morts et de les entasser sous les porches des maisons, avant de les charger sur les fardiers et autres véhicules. J'ai vu déshabiller des vieux, des jeunes, des femmes et des hommes. On enlevait les vêtements des nourrissons. On entassait les corps les uns sur les autres, pêle-mêle. Combien de fils ne reconnurent-ils pas leurs parents parmi les tués? Combien de parents ne durent-ils pas déshabiller leurs enfants de leurs propres mains? La pharmacie n'a donc plus son rôle à jouer. L'auteur met en avant une déshumanisation totale, allant des rues vides jusqu'au traitement des cadavres juifs. Ce quartier devient la ville des morts, ce qui contraste largement avec les grandes foules du début du livre. Le ghetto cessa définitivement d'être lorsqu'on enleva les derniers fils barbelés de sa délimitation. Plus rien ne le représentait.
Malgré cela, Pankiewicz aida à la conservation de nombreux livres juifs et polonais, notamment des livres de prière. Il garda contact avec un grand nombre de juifs qu'il avait sauvés et fut invité chez eux aux quatre coins du monde. Il a retrouvé mon adresse et m'a écrit une longue lettre chaleureuse. Il s'y présentait, se rappelait Cracovie, la maison où il était né, les rues où il avait joué. Ses parents lui avaient beaucoup parlé de nous, de notre pharmacie. Ça fait tant d'années qu'il a quitté la Pologne et il parle et écrit sans faute le polonais. Il est venu deux fois à Cracovie avec sa femme. Tout leur plaisait, tout les enchantait. J'ai passé en leur compagnie des moments inoubliables. Le témoignage de Tadeusz Pankiewicz permet de redonner un nom à tous ceux qui l'avaient perdu. Il faut le lire pour le comprendre, mais il ne se passe pas une seule page dans laquelle un nouveau nom n'est pas cité. Les Juifs, ainsi déshumanisés pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, retrouvent ainsi une identité, une valeur, et retrouvent alors leur place dans l'histoire. Il écrit son témoignage pour que les gens sachent réellement les atroces conditions de vie des Juifs, comment ils ont été rassemblés, sous-nourris, maltraités, battus et tués. Il est important de le montrer aux personnes qui pensent que tout cela a été exagéré par les survivants. Dans son ouvrage, Tadeusz nous partage un dialogue qu'il a eu avec une de ses connaissances. « Tadeusz, me dit-il, j'ai lu ton livre, il me plaît assez, mais je pense que tu exagères dans ta description des assassinats et des mauvais traitements infligés par les Allemands aux Juifs. Non ? Mais peu importe que tu te sois laissé emporter par ta fantaisie. Ne connaissons-nous pas la vérité ? Henrik, lui dis-je, où vivais-tu à cette époque, en quel monde pour ne pas me croire ? Moi j'étais là-bas, non ? Durant toute l'existence du ghetto, je vivais là-bas avec ces gens. Les employés de la pharmacie et moi, nous avons été les témoins oculaires de tout ce qui s'était passé sur la place Gaudi, durant les expulsions, et pas seulement là. Et tu parles, toi, d'exagération ?
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce livre. Il est assez méconnu, alors que ce témoignage est exceptionnel, car nous n'en avons que très peu sur les ghettos. Sa première édition, en 1947, est frappée par la censure, car la Pologne ne veut pas réouvrir la plaie, en parlant et expliquant les atrocités des ghettos, et encore moins prendre une responsabilité. Une loi a été votée sur l'interdiction de tenir la Pologne responsable pour la Shoah en 2018. Mais il est possible de dire que cet ouvrage a eu un impact pour la mémoire du lieu, car en 1983, la pharmacie a été réouverte en un musée, le musée de la mémoire nationale, présentant l'histoire de la communauté juive et celle de Tadeusz Pankiewicz durant la guerre. Le projet a été soutenu par plusieurs réalisateurs, tels que Spielberg dans la liste de Schindler ou par Roman Polanski, tous deux ayant fait des dons pour sa conservation. Son témoignage est particulier, car il n'est ni du point de vue de la victime, ni de celui du bourreau. Il était spectateur, mais ses actions en faveur des Juifs du ghetto l'ont transformé en un véritable acteur. Il meurt le 5 novembre 1993, mais son rôle aura été officiellement reconnu par Israël 10 ans plus tôt, avec la remise en 1983 de la médaille Yad Vashem comme un juste parmi les nations.